Bonjour Raphaël Granier de Cassagnac, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. En quelques mots, je vais te présenter, tu rajoutes ou tu me corriges si je me trompe, mais tu es chercheur en physique de particules à l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules du CNRS, et tu diriges également la collection Au rebord de chez Mnemos. Tu as notamment publié Abîme, le guide de la cité des ombres, et Cadas, le guide de la cité inconnue. Tu as écrit des scénarios de jeux de rôle, des nouvelles, et tu viens de sortir récemment ton premier roman chez Mnemos, Eternity Incorporated.
Tout est vrai.
Alors, c'est la première année que tu participes aux Utopiales en tant qu'auteur ?
Oui.
Ok. Donc, j'en viens à Eternity Incorporated, puisqu'on t'a interviewé récemment pour ActuSF pour les deux ouvrages sortis chez Ourobore. Et tu as débuté dans l'écriture avec plusieurs scénarios de jeux de rôle et des nouvelles dans un univers plutôt de fantasy. Alors, qu'est-ce qui t'a fait choisir cette thématique SF, en fait, pour Eternity ? D'où est venue l'idée ?
L'idée est venue un peu par hasard, en fait. J'écrivais, ça a commencé il y a assez longtemps, j'écrivais pas mal de nouvelles dans pas mal d'univers différents, donc fantasy, tu l'as dit, et donc une d'anticipation. Et je l'ai proposé à quelques éditeurs qui l'ont heureusement refusé. Et quelques amis m'ont dit que l'univers méritait un développement un peu plus approfondi. Donc je l'ai prise à contre-pied et j'ai commencé à écrire Eternity comme ça. Et donc ça aurait pu être un autre univers, je pense. Mais là, les gens, enfin mes amis, disons, ont trouvé un intérêt dans ce texte-là. Donc je l'ai pris à contre-pied, j'ai commencé à écrire Eternity. Donc là, ça démarre sur une situation qui n'est pas du tout celle qui était dans la nouvelle. Et petit à petit, je me suis rendu compte que la nouvelle venait s'imposer à la fin. Donc, tu l'as lu, tu sais qu'à la fin, il y a un chapitre un peu particulier. Oui. Donc c'est ça, c'était la nouvelle, bon, très retravaillée, mais c'était essentiellement la nouvelle. Donc ça, c'est un peu un concours de circonstances et un hasard. J'ai pas de genre, et d'ailleurs je déteste la notion de genre, de prédilection particulier. Donc, pour l'instant, c'est une anticipation, mais
ça peut, voilà, pourquoi pas autre chose. D'accord. Et alors, ton roman m'a fait penser, par certains côtés, un petit peu au monde inverti de Christopher Priest. L'idée où des personnages qui vivent vraiment dans un monde clos sur eux-mêmes et qui n'ont pas d'informations de l'extérieur, mis à part par le biais, dans le cas de ton roman, du processeur, ou par le biais dans le monde inverti des personnes qui sortent, qui sont autorisées à sortir. Est-ce que c'est un peu une métaphore pour toi de notre vie moderne, un petit peu, où on est un peu enfermé sur nous-mêmes, dans notre petit univers, sans trop prêter attention ?
Oui, évidemment, il y a de ça. D'ailleurs, le titre original de Eternity Incorporated, c'était Notre Bulle, pour vraiment donner cette idée-là qu'on vit dans notre bulle.
D'accord.
Notre Bulle, ça sonne pas bien, paraît-il, donc on a changé le titre.
Un peu moins vendeur.
Mais c'était vraiment ça l'idée de départ, oui, d'essayer de traiter ça, et surtout de traiter, donc, tu sais, au début, ce processeur dont tu viens de parler s'arrête, c'est le début du roman. Et donc de traiter comme ça, comment on réagit chacun si jamais on nous donne toute notre liberté, on nous rend toute notre liberté, tout notre libre arbitre, qu'est-ce qu'on fait ? Je sais qu'on peut faire beaucoup de bêtises, beaucoup de choses bien, c'est vraiment cette question-là, comment on réagit à une grande liberté donc quand la bulle éclate en quelque sorte.
D'accord. Et justement, à ton avis, est-ce que grâce aux nouvelles technologies, l'homme va acquérir plus de liberté ou finalement c'est pas plutôt l'inverse et ça peut aussi... être un effet où ça va renfermer aussi les gens sur eux-mêmes, même si on a accès à plus de choses avec les nouvelles technologies.
Je pense que c'est des notions complètement séparées, en fait, la liberté et le développement technologique. On va perdre certaines libertés, en gagner d'autres. Sur Internet, c'est l'exemple le plus évident. Peut-être que maintenant, on a moins de mémoire, de culture à laquelle on pourrait associer une certaine forme de liberté de pensée, mais en même temps, on a accès à la mémoire du monde à travers l'Internet, ce qui donne une nouvelle liberté vraiment pour plein de gens. Donc non, je pense que c'est vraiment des notions assez séparées, en fait. Donc j'espère qu'on ne va pas perdre de liberté.
D'accord. Alors, l'intelligence artificielle, c'est donc aussi une thématique centrale de ton roman, et ça pose aussi la question un peu de la conscience, qui a pu être développée par d'autres auteurs comme Isaac Asimov, dans le cycle de robots, etc. Mais est-ce que tu penses qu'avec les progrès technologiques qui seront à venir dans de nombreuses années, on peut réussir à vraiment développer de réelles intelligences artificielles qui soient vraiment proches de la conscience humaine ?
Bon, objectivement, on n'en sait rien, je pense. ce que je l'espère, non. Bon, la réponse à la question, elle est donnée dans le dernier chapitre, un peu.
Oui,
donc, on va pas la dévoiler maintenant. Et puis, je suis en train de l'approfondir beaucoup pour une suite qui viendrait en fait avant Eternity.
D'accord.
Donc, je réfléchis pas mal à ces questions-là en ce moment. Et on n'en sait rien, je pense, vraiment. On verra.
D'accord.
Puis, qu'est-ce que c'est que l'intelligence? C'est une question.
C'est très relatif.
Complètement. Puisque c'est une intelligence humaine, une intelligence qui ressemble à des humains mais qui n'en est pas une. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est pas évident du tout, du tout. Ouais. Donc, on sait pas, je pense. On verra.
D'accord.
On verra, et puis il faudra bien réagir quand ça arrivera. Quoi.
Ok. Et alors, l'art aussi, ça joue un rôle important dans ton roman, le rôle de l'art. Et quel type d'art, toi, tu aimes personnellement, par exemple? À ton avis, quel rôle l'art doit jouer dans la société?
Bon, la musique, évidemment. Il y a un de mes personnages qui est DJ dans des soirées dissidentes, musique électronique. D'ailleurs, j'ai accompagné mon roman de musique sur un site web, une musique très électronique. Donc, oui, la musique, bon, l'art, c'est souvent utilisé comme une forme de subversion pour donner des messages qui sont difficiles à donner autrement. Donc, pour moi, c'est le rôle principal de l'art dans la société, c'est de divertir tout en étant capable de donner plein d'idées, de se remettre en question tout le temps, de remettre en question la société. Bon, c'est un peu évident ce que je dis, mais je crois que c'est la fonction principale, oui.
D'accord. Et alors, pour ton roman, tu l'as construit en fait sur trois narrateurs différents qui ont vraiment un point de vue et une vie un petit peu différente, voire opposée, pour qu'on puisse voir justement trois visions d'un même événement à travers leur prisme. Et est-ce que c'est vraiment une simple technique romanesque pour toi, ou est-ce que ça t'a permis vraiment de pouvoir mieux décrire ton univers en le montrant justement sous les yeux de trois personnages différents?
C'est les deux. Alors, c'est une technique romanesque parce que écrire comme ça, mes chapitres sont vraiment basiques, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, tu passes d'un personnage à l'autre dans le même ordre tout le temps. Mais ça permet, et sur des chapitres assez courts, donc ça permet évidemment de laisser le lecteur en attente de ce que va devenir le personnage A, Sean par exemple. Donc après un chapitre de Sean, tu vas lire un chapitre de Gina et de Ange, donc tu ne vas savoir ce qui se passe chez Sean que deux chapitres plus tard. Donc j'espère que ça marche et que ça tient un peu le lecteur en attente. Et après, sur la différence de point de vue, alors c'est à la fois bien et pas bien, parce que j'ai pris le parti pris vraiment de... D'ailleurs, c'est tout est écrit à la première personne. Les trois personnages sont écrits à la première personne, donc tu sors jamais de leur tête. Tu n'as en fait que leur point de vue, donc ça limite en fait, parce que tu n'as que trois points de vue. Il n'y a pas de narrateur externe qui te raconte. D'ailleurs, ça m'est parfois reproché ce qui se passe dans le reste de la bulle, ce que deviennent les gens, ce que les autres pensent. Il y a un petit truchement, parce qu'à un moment, il y a tout un... Toute la deuxième partie est centrée sur une élection dans laquelle tu entends un peu les voix politiques qui émergent dans la bulle, mais c'est juste des entêtes de chapitres très courtes. Donc c'est à la fois oui, c'est trois personnages, donc trois points de vue hyper différents, je les ai choisis hyper différents exactement, et en même temps c'est à la limite parce que tu vois pas, t'as pas de narrateur externe, donc tu vois pas ce qui se passe dans l'ensemble de la bulle.
Mais ça permet aussi de retranscrire le sentiment un peu d'isolement des personnages.
Oui, tout à fait. Ça, j'y tenais aussi. C'est vraiment te centrer sur des narrateurs. Vraiment, t'es dans leur tête, quoi. T'es dans leur bulle, en quelque sorte. Tout le monde est tout seul à la fin par rapport à ces questions de liberté dont je parlais tout à l'heure.
Et
je préférais vraiment me mettre dans un point de vue très intime, comme ça, plutôt que dans un point de vue global. Hein.
D'accord. Alors justement, au niveau de l'expression de la liberté au moment où le processeur s'arrête, en fait, tu as choisi de montrer deux côtés, les deux côtés opposés, un petit peu manichéens, entre vraiment l'idée de très très grande liberté et puis les opposants qui veulent justement aucune liberté parce qu'ils en ont peur, quelque part. Est-ce que c'était pour toi une manière justement de m'exprimer le message de la liberté plutôt que d'essayer de montrer plusieurs personnages qui sont un petit peu mitigés, qui vont à la fois vouloir un peu de liberté tout en gardant un contrôle?
Oui et non, encore une fois, parce que j'ai pas choisi de décrire les plus extrêmes en fait. Sean, il prône la liberté absolue, mais dans une démarche politique, il y a des gens qui sont plus à la marge que lui, ce qu'on appelle les déconnectés ce que j'appelle les déconnectés dans le roman.
Picasso,
Alors il utilise, voilà, mon personnage principal utilise un de ceux-là parce qu'il pense qu'il a une voix politique intéressante. Mais dans un chapitre vers la fin, je décris, il y en a encore d'autres qui sont encore plus à la marge que Picasso, les déconnectés qui arrive même pas à réagir quand le processeur s'arrête. Donc c'est vraiment l'extrême libertaire, on va dire. Bon, j'en suis vraiment pas loin, tu l'as dit. Enfin, il est très très libertaire, je suis peut-être un peu trop parfois. Et de l'autre côté, j'ai pas décrit non plus enfin, mes trois personnages, il n'y en a aucun qui va
Non,
vraiment
c'est
dans la
pas dans les
France
trois personnages, hein,
totalitaire.
tout à fait. C'est quand on voit les
Voilà.
élections en fait qui se déroulent
Voilà, donc
et
dans les élections.
voilà.
Et dans les élections, il y a d'autres voix. Il y a une voix qui est un peu intermédiaire, la voix du brigadier, là, qui est un peu au milieu, qui est le centriste de l'affaire, on va dire. Donc voilà, ouais, bon, j'ai décrit les extrêmes, c'est clair, mais j'ai essayé aussi
Oui, de prendre un
de
petit
prendre
peu
un
tous
peu
les points de
le
vue.
spectre, ouais.
Donc comme tu le disais tout à l'heure, tu as créé un site dédié à ton roman, où tu mets en scène justement les trois personnages, comme s'ils racontaient un petit peu l'histoire, où ils la redécouvraient, avec des morceaux de musique, des photos du monde de l'extérieur, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est une très bonne idée, parce que ça permet d'avoir un complément en fait un petit peu multimédia. Est-ce que tu penses que justement dans les années à venir, de plus en plus, on va pouvoir en édition créer ce genre d'univers où on va pouvoir mêler à la fois texte et multimédia, internet, vidéo?
Ah bah oui, tout est en train de s'ouvrir sur ce terrain-là, avec la littérature électronique. Ben on verra, oui, mais il faut tenter des aventures comme ça, un peu multimédia. Alors, c'est dangereux parce que si faut pas non. Enfin, la BD, ça existe déjà, par exemple.
Oui.
Je suis plus attiré par le côté musique et des choses comme ça pour accompagner une lecture, mais la lecture, ça reste la lecture. Il faut pas non plus trop diluer
Oui.
les. Il faut tenter des choses et voir. Il faut que ce soit pertinent. Il faut bien trouver les
Que ça
points
ait
de
un sens,
correspondance, ouais.
d'accord.
Ouais, une Eternity sur tablette avec de la musique, pourquoi pas, quoi.
Justement, qui a créé les morceaux de musique qu'on peut entendre sur le
Alors,
site?
il est anonyme, c'est un ami à moi très cher
D'accord.
depuis l'enfance quasiment, ouais, depuis l'enfance. C'est un peu Sean, en quelque sorte.
D'accord.
On est allé dans des soirées ensemble à New York, qui ressemblent un peu à celles
T'as un peu
qui sont
inspiré
décrites dans
le
le. Ouais.
personnage.
Ah, c'est pas moi, il y a des gens qui pensent que c'est moi, mais non, c'est pas moi.
D'accord. Justement, donc tu as voyagé à New York et apparemment c'est une ville qui t'a beaucoup marqué. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté en fait? De quelle façon elle a pu te marquer et t'aider ensuite dans ta façon d'écrire?
Alors, New York, c'est une ville pleine d'énergie, il se passe plein de choses tout le temps. C'est une ville très internationale, ce qui est rare aux États-Unis, en fait. Donc, c'est une ville dans laquelle il fait bon se promener, qui, moi, m'a inspiré énormément. Et donc, ça, c'est le côté un peu évident. Et après, il y a un côté presque technique, c'est que je me suis retrouvé pour des raisons professionnelles à passer pas mal de week-ends là-bas,
D'accord.
et à m'arrêter dans des cafés et à écrire Eternity essentiellement là-bas.
D'accord.
Il y a eu beaucoup de démarrages, d'idées, de chapitres, choses comme ça, après j'ai fini en France, mais qui ont été là-bas. Donc c'est une ville qui m'a inspiré à la fois par la force des choses, mais je pense qu'elle a en soi une puissance évocatrice
D'accord.
assez forte.
On
Et
va
puis bon, pour faire de
remarquer.
l'anticipation, c'est une ville un peu tentaculaire. Je crois qu'il y a pire maintenant, mais avec des grands immeubles, tout ça.
On reconnaît un petit peu New York dans l'extérieur, dans
C'est New York.
Eternity.
C'est
D'accord.
la première ville dans laquelle on va, c'est absolument New York. Il y a un indice, je donne un indice, le panneau, à un moment elle débroussaille, elle trouve un panneau
Oui,
voilà, dans le parc dans lequel il est marqué qu'on ne peut tourner que dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si
D'accord.
tu vas à Central Park
C'est véridique.
autour du réservoir de Jackie Kennedy, il y a effectivement des panneaux qui disent que. Il y a une photo d'ailleurs sur le site,
Oui.
qui disent qu'on peut tourner que dans le sens inverse. Donc c'est complètement New York.
D'accord.
Mais je le dis pas. Je préférais ne pas
Oui. Pour qu'on puisse
ne pas.
imaginer aussi ce qu'on a envie.
Ouais, exactement. Je préfère vraiment laisser l'attitude au lecteur d'imaginer que c'est un peu où il veut, de remplir les vides avec ce qui vient de lui, quoi. À la fois pour le lieu et pour la date. Je ne dis pas à quelle époque le cataclysme s'est passé. Je dis qu'on est 600 ans après, mais en fait
Oui.
ça compte pas. Ça pourrait être n'importe
Oui,
quoi.
ça peut être
Mais je ne
n'importe
dis
quelle
pas.
époque.
À un moment, je pourrais dire une date.
Oui.
Quand je trouve un testament, on pourrait vraiment dire une date. Je donne une date sans donner l'année. Mais. Non, je préfère laisser ces zones-là complètement dans le flou, en fait.
D'accord. Donc comme tu le disais tout à l'heure, tu apprécies beaucoup la musique. Et quand tu... Alors a priori, j'avais vu dans ta petite biographie que tu avais aussi été chroniqueur de musique rock. Et tu aimais bien donc plutôt les musiques électroniques aussi. Quel genre de musique tu écoutes, pardon, quand tu écris? Et est-ce que ça t'aide justement à construire tes textes?
Alors, c'est vrai, j'écoute beaucoup de musique quand j'écris, c'est clair. Ça dépend vraiment des moments. Alors, en ce moment, j'écoute essentiellement de la musique électronique et essentiellement de la musique de Eternity Incorporated pour écrire le deuxième.
D'accord.
Ça fonctionne, mais ça à fond dans les oreilles. J'ai des moments où vraiment ça m'inspire. Mais en fait, en vrai, j'aime plutôt la musique rock. Enfin, je suis assez éclectique en musique. J'ai pas
D'accord.
vraiment de genre comme ça, de prédilection. J'aime bien piocher dans différents genres, les trucs qui me plaisent. mais plutôt musique rock, ouais. Pour tout ce qui est concert, ça, je suis plutôt dans les concerts de rock que dans les concerts de musique électronique. Enfin,
ok.
C'est un peu anecdotique, hein, les chroniques. Je n'ai pas fait beaucoup.
D'accord.
En fait.
Alors, comme tu es aussi scientifique et chercheur en particules, en fait, est-ce que le fait d'être scientifique, ton expérience en tant que scientifique, ça t'aide aussi pour écrire un petit peu ou...
Tout le monde me pose cette question, évidemment. Alors, à la fin, c'est la même personne qui écrit, donc il y a sûrement des connexions. mais non, je crois pas. Parce que. En tout cas, bon, je fais de la physique des particules et je me vois pas écrire de la science-fiction qui inclut la physique des particules, l'art science dans cette direction-là. Parce que bon, c'est mon boulot, je préfère quand j'écris faire autre chose, quoi. Et bon, par contre, dans Eternity, à la fin, il y a un chapitre qui est très art science, en fait.
Tout à fait.
Et dans le deuxième, il y en aura aussi pas mal. Donc, de fil en aiguille, je commence à me diriger à utiliser un peu des éléments scientifiques dans ce que j'écris. Mais, comme on disait tout à l'heure, j'ai commencé avec de la fantasy. Oui. C'est quand même pas évident de mettre de la science. Il y en a qui le font, hein, mais... Mais donc non, j'aime bien me mettre le plus loin possible. Après, bon, comme je te disais, c'est la même personne qui écrit. Donc, mine de rien, le boulot de chercheur en physique fondamentale, comme ça, c'est un boulot où l'imagination joue un grand rôle, je pense. Donc il y a sûrement des tas de connexions à trouver, mais pas directes, je pense.
D'accord. Okay. Alors, quelle serait la grande découverte scientifique, soit d'aujourd'hui, soit du passé, hein, qui t'aurait marqué principalement, en fait?
C'est une bonne question. Bon, sans réfléchir, j'avais envie de répondre à Internet, en fait. C'est pas vraiment une découverte scientifique.
C'est quand même une révolution.
Mais c'est pour moi, c'est une révolution. Ce qui est curieux, c'est qu'Internet a été en partie développé, puis c'est surtout devenu très répandu et dans le domaine totalement public, parce que ça a été développé par des scientifiques qui collaboraient internationalement, un peu avant les autres, on va dire. Donc, bon, c'est pas souvent le CERN, qui est le laboratoire européen de physique des particules, le met vachement en avant parce qu'ils l'ont inventé, mais c'était pas le sujet de leur recherche, mais pour faire leur recherche, ils ont inventé cette chose.
D'accord.
Comme ça, rapidement, c'est ça qui me vient à l'esprit. Ouais.
D'accord.
Après, conceptuellement, c'est pas une révolution scientifique majeure, hein, c'est juste utiliser c'est plus technologique que scientifique,
mais ça change,
hein. Mais ça change la vie de tout le monde.
Tout à fait.
Depuis la télé, je pense qu'il n'y avait rien d'aussi révolutionnaire.
Non. Ok. Alors, je reviens un petit peu au jeu de rôle. Alors, je pense qu'on t'a souvent posé la question, mais quel a été, en fait, le premier jeu de rôle auquel tu as pu jouer? Et puis, est-ce que tu as toujours le temps, encore, de consacrer un petit peu des moments?
Alors, tout premier jeu de rôle que j'ai joué s'appelait Légende des Mille et Une Nuits. Tout le monde a oublié. C'était un jeu bourré de règles. Ça m'a vacciné contre les règles. Et c'est un univers, les Mille et Une Nuits, que j'aime beaucoup. Hein. J'ai écrit une de mes nouvelles publiées, je passe dans un univers comme ça. Quand j'ai travaillé sur le jeu de rôle Agone, j'aimais beaucoup explorer la partie orientale de cet univers-là.
D'accord.
Et donc j'y viendrai, j'écrirai sûrement un jour un truc un peu plus conséquent dans ce genre d'univers-là. Et est-ce que j'ai le temps de jouer? Oui, faut se forcer un peu quand on arrive, quand on travaille et tout ça. Donc on se bloque un soir par semaine avec des copains et on joue. Ouais.
D'accord. Est-ce qu'en dehors de la SF ou de la fantasy, est-ce que tu aimes bien aussi lire d'autres choses et quel genre de lecture, hein?
C'est même l'inverse, en fait. C'est-à-dire que je lis autre chose plutôt que de la SF et de la fantasy. Non, tout à l'heure, tu as évoqué tu as fait des comparaisons entre mon roman et des ouvrages que je connais à peine, en fait.
D'accord.
Non, je lis très très peu de SF et très peu de fantasy. J'en ai lu pas mal quand j'étais adolescent, mais aujourd'hui, j'en lis très peu. Et je pense, comme plein d'autres, que je sens quand je lis quelque chose qui est proche de ce que j'ai envie d'écrire que je suis super influencé par ce que je lis, en fait.
Oui.
Donc je préfère lire de la littérature générale quand j'écris, mm-hmm, que de lire de SF. Donc oui, j'en lis beaucoup, en fait.
D'accord.
Ouais.
Que ce soit des auteurs français, anglo-saxons.
Ouais, ouais.
D'accord.
Je me balade un peu. Bon, je lis pas énormément non plus, parce qu'il faut du temps pour écrire, donc puis travailler tout ça. Donc je lis pas énormément, mais quand. Alors en ce moment, ça a rien à voir, mais je lis tout Jules Verne parce que notre troisième Ouroboros se passera dans. On va retravailler l'univers de Jules Verne.
D'accord.
Donc voilà, donc ça, mais c'est un peu par la force des choses.
Documenter.
Voilà. Et donc ça, c'est un autre champ de lecture, c'est bon. L'année dernière, j'ai relu tout Lovecraft, tout presque,
pour faire Kadat.
Donc voilà, ça, c'est aussi des lectures presque professionnelles, comme tu dis, pour se documenter. Mais sinon, c'est plutôt littérature générale.
D'accord.
Et on me dit, tu devrais lire ça en SF, tout ça, mais je lis pas.
Ok. Alors tout à l'heure, tu expliquais justement que vous aviez changé le titre du roman qui devait s'appeler Notre Bulle à l'origine pour que ce soit un petit peu plus vendeur, entre guillemets, au point de vue du libraire. Alors toi, tu as une expérience aussi en tant que directeur de collection, en fait. Et comment on peut faire du point de vue éditorial pour essayer justement de mettre en avant une maison d'édition, pour essayer de... On parle de romans alors qu'on sait que malheureusement il y a énormément de sorties, donc c'est pas toujours évident de faire de la place, même à des très bons romans qui sont un peu noyés parfois dans le monde.
Ouais, bah ça, j'en sais pas grand chose parce que la collection que je dirige elle est particulière. Oui. On n'a pas de, on fait pas de choix, on reçoit pas de propositions, on choisit les univers qu'on veut traiter, on sélectionne les auteurs, ça, donc c'est pas un vrai travail de mise en avant. Bon, quand on choisit les thèmes, Lovecraft, on se doutait bien que c'était vendeur. Jules Verne, ça devrait marcher aussi. Mais c'est vraiment particulier. Ça. Non, je sais pas. Je fais complètement confiance à mon éditeur pour ces questions-là. C'est quand il m'a dit notre bulle, ça vendra pas. J'ai dit bon, c'est dommage. J'aime bien moi, mais ok, c'est son boulot, c'est pas le mien. Et pareil pour la couverture. C'est vraiment pour moi, c'est le boulot d'éditeur et je le connais pas beaucoup ce métier, donc je peux pas vraiment bien répondre à ta question.
D'accord. Ben, pour conclure, en fait, la question un peu classique qu'on pose toujours, mais tu as un petit peu évoqué au passage, mais quels sont tes projets, sur quoi tu travailles en ce moment? Est-ce que tu as un prochain roman? Est-ce que c'est la suite donc d'Eternity?
Ouais, ben j'ai déjà tout dit. Voilà. Donc les deux projets que j'ai, c'est d'écrire une suite à Eternity, en fait, qui se passera avant, une prequel comme on dit. Et puis le troisième au rebord qui se passera dans Jules Verne. Et comme j'ai déjà tout dit, je parlais d'un autre projet. En fait, avant que Eternity soit accepté, j'avais commencé un roman plutôt steampunk, on va dire. Donc ça, ça existe, c'est ébauché. On verra quand j'aurai le temps. Après, je finirai.
D'accord.
Voilà.
Ok. Ben, merci beaucoup en tout
merci
cas
à toi.
D'avoir répondu aux questions.